Nous lisons ainsi en Marc 11, à partir du verset 11, ce passage où Jésus dessèche un figuier qui n'avait pas donné de fruits. Alors on peut aimer les miracles de l'Évangile, on peut aimer les miracles de Jésus, mais néanmoins on peut rester un petit peu perplexe quant à ce miracle-là. D'abord parce que avouer que dessécher un figuier n'est pas une chose très utile dans la vie, ce n'est pas très intéressant comme miracle. Encore quand il guérit un lépreux, quand il ressuscite Lazare, on se dit ça, ce sont des bons miracles qui montrent la grandeur, la générosité, la puissance du Christ. Mais un miracle qui sert uniquement à dessécher un figuier, est-ce bien utile? Et d'autre part, on peut être étonné aussi par l'attitude un petit peu de vengeresse de Jésus. Agacé de ne pas avoir trouvé de figue sur un arbre, il dit « Puisque c'est comme ça, personne n'en mangera plus !» Paf, il le dessèche et le figuier ne produit plus de fruits. Avouez que c'est quand même très, très étonnant. Rien que cela doit nous inciter à penser que derrière tout miracle de l'Évangile se cache quelque chose. Et en particulier qu'il se cache derrière tout miracle ce que je crois être une parabole. Et oui, il ne faut pas lire les miracles au pied de la lettre, ce sont des paraboles. Et comme dans toute parabole, pour comprendre le sens d'un miracle, il faut se demander où l'on est soi-même dedans, c'est-à-dire en quoi ce miracle parle de nous. Alors là, effectivement, ça commence à prendre du sens. Parce que le sens là est assez clair, il est évident que le figuier, c'est nous, et que ce que Jésus attend de nous, c'est que nous produisions du fruit, que nous produisions du bon fruit. Ça, c'est l'attente fondamentale et essentielle de Dieu à notre égard. Alors, quels sont ces fruits que Dieu attend que nous produisions? Nous en avons lu tout à l'heure la liste dans Galates 5, 22, où Paul dit la liste des fruits de l'Esprit. Et il dit les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la consolation, la persévérance, la douceur et la maîtrise de soi. Oui, certainement, Dieu attend de nous que nous produisions des bons fruits, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas pour nous, parce qu'un fruit ne profite pas à l'arbre. Les feuilles, oui, ça profite à l'arbre. Ce figuier avait plein de feuilles, et il avait plein de choses pour lui-même. Mais les fruits, ça ne nous sert pas à nous. Les fruits, c'est ce que nous donnons pour le monde. Les fruits, c'est ce qui sort de notre vie pour profiter aux autres, pour profiter au monde. Ce qui, justement, ne nous sert à nous à rien, mais qui est donné aux autres. Alors oui, là, je comprends ce que veut dire le Christ. Il vient vers nous. Il nous trouve plein de feuilles, plein de force, plein de belles choses. Nous sommes merveilleux, plein d'énergie, plein de jeunesse, plein de tout ce que vous voulez. Et il se dit, cette personne, elle est tellement en bonne santé, tellement en bonne forme, qu'elle va pouvoir me donner du fruit d'amour, de pardon, de justice, de paix. Et il ne trouve rien. Alors là, se trouve la deuxième question. Il ne trouve rien. Donc Jésus n'est pas content, et ça je le comprends. Mais alors pourquoi est-ce qu'il le dessèche? Est-ce qu'il y aurait là une sorte de jugement, une sorte de punition de Dieu à l'égard du figuier? Eh bien, non, je ne le crois pas, en fait. Je crois plutôt que Jésus ne punit pas, mais qu'il annonce que ce figuier sera desséché. C'est-à-dire qu'il y a là l'annonce d'une conséquence inévitable. Si jamais nous ne produisons pas de fruits, qu'est-ce qui nous menace? C'est de nous dessécher. Et ça, on le dit même au sens assez compréhensible, quand on parle d'un être humain et on dit « cette personne, elle est desséchée, elle est sèche ». C'est ça le risque. Oui, si nous ne produisons pas de fruits, si nous n'aimons pas, si nous ne servons pas, si nous ne pardonnons pas, eh bien, nous allons nous dessécher sur place et nous allons crever desséchés. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence inéluctable. Je crois qu'il n'y a pas de... et on ne peut rien y faire. C'est comme ça, c'est comme ça. Néanmoins, se trouve dans Marc une petite phrase qui complique très nettement la situation. C'est un jour un de mes catéchumènes qui me l'a fait remarquer, parce que ce figuier desséché, on le trouve dans Marc, mais aussi dans d'autres évangiles, et l'évangile de Marc rajoute une petite remarque insidieuse, tout à fait curieuse. On nous dit « Jésus s'approcha du figuier, il ne trouva pas de figue ». Bon, très bien, je comprends, je vous l'ai expliqué. Mais Marc rajoute « parce que ça n'était pas la saison des figues ». Alors là, je trouve que Marc casse toute l'histoire. Ce n'était pas la saison des figues. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il y fasse, ce pauvre figuier? Il n'y pouvait rien. Et alors mes catéchumènes m'ont dit « mais pourquoi est-ce que Jésus pouvait réclamer des figues si ce n'était pas la saison ?» Alors j'ai commencé à dire, oui, mais vous savez, je crois que Jésus utilisait des situations de la vie courante pour faire comprendre des choses à ses disciples. Et oui, ce n'était pas la saison, mais faut pas faire attention à cette remarque. Certainement que ce n'était pas la saison, mais Jésus en a profité pour faire peut-être une petite leçon que nous n'avons pas eue et pour dire aux disciples qu'il fallait donner du fruit, etc. Et que cette remarque est juste quelque chose d'un peu autobiographique. Marc s'est souvenu de ce détail et il l'a mis, mais il ne faut surtout pas en tenir compte pour l'interprétation du texte. Mais néanmoins, je pense qu'il ne faut pas prendre les évangélistes pour des imbéciles. Il ne faut pas non plus prendre Jésus pour un imbécile. Si ce n'était pas la saison, Jésus n'était pas suffisamment idiot pour aller chercher des figues sur un arbre qui ne pouvait pas en avoir. Et si ça n'avait pas d'intérêt, je ne vois pas pourquoi Marc nous aurait mis cette petite phrase. Et donc, je propose au contraire de se dire que peut-être il y a là, dans cette phrase, une clé très essentielle pour avancer un petit peu dans ce texte. Parce qu'en effet, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de figuier, évidemment. Il ne s'agit pas d'un cours de botanique pour savoir si c'est à l'automne ou au printemps que les figuiers donnent des fruits ou je ne sais quoi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de nous. C'est une parabole. Et donc la question qui est posée là, c'est quel est le bon moment pour donner des fruits à ceux qui en ont besoin? Et quel est le bon moment pour donner des fruits quand Jésus ou quand Dieu en a besoin et nous les demande? Et là, nous sommes en face de deux logiques. L'une qui est la logique du figuier, qui est la logique naturelle et qui est la logique pour laquelle on peut trouver toutes les excuses. Moi, je donne du fruit quand ça m'arrange. Je donne du fruit quand c'est le bon moment pour moi. Je donne du fruit quand je peux le faire, quand ça m'est possible. Ça, c'est la logique naturelle. Et le Christ, lui, propose une autre logique, qui est une logique surnaturelle, une logique qui bouleverse ce qui est normal pour nous. Et il dit, le bon moment pour donner du fruit, ça n'est pas le moment qui vous arrange, ce n'est pas le bon moment qui est pour vous. Le bon moment pour donner du fruit, c'est quand les autres le demandent, même si ça ne vous arrange pas. C'est là une autre logique qui certainement nous dérange, nous change nos habitudes, n'est pas confortable. Et si on ne peut pas l'exiger d'un figuier, arbre matériel, c'est quelque chose qu'on peut demander à un être humain. Et effectivement, en tant que pasteur, il est évident que c'est quelque chose que je vis sans arrêt. Parce que, par exemple, pour tous ces moments de vente que nous avons vécu ces derniers jours, où beaucoup de gens ont fait beaucoup d'efforts, etc., et chaque fois que je demande, moi, à quelqu'un de rendre un service dans la paroisse, de m'aider à faire ceci, à faire cela, à faire l'école biblique, à tenir un stand, à faire une chose ou l'autre, eh bien, cette personne, évidemment, me dira toujours, écoutez, je vous aiderai bien, mais en ce moment, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup d'autres choses à faire, je suis très occupé, je vous aiderai, mais quand j'aurai le temps. Très bien. Mais entre nous, est-ce qu'on n'a jamais le temps d'aider l'autre? Ou même, quand on dit aux gens, voilà, il faut donner pour l'Église, parce que c'est important que l'on puisse proclamer l'Évangile. Est-ce que notre tentation n'est pas de dire, oui, bien sûr, je donnerai, mais pour l'instant, je suis un petit peu juste, hein, je donnerai quand j'aurai suffisamment ou quand j'aurai trop d'argent. Eh bien, ceux qui donnent quand ils ont trop ne donnent jamais. Et ceux qui rendent service quand ils ont le temps de le faire ne rendent jamais service. Effectivement, moi je le vois sans arrêt, ceux qui donnent le plus sont ceux qui ont parfois le moins, ceux qui aident le plus ce sont ceux qui sont déjà les plus débordés, ceux qui sont les premiers à dire « oui, je vais rendre service » sont ceux qui ont le moins le temps de le faire. Et, bon, rendre service à une paroisse, c'est une chose, mais je crois que là, c'est beaucoup plus essentiel dans notre rapport à Dieu, dans notre rapport aux autres, dans notre rapport au monde sans arrêt, où effectivement, la question est toujours cela, c'est que ce que l'on nous demande ne tombe jamais bien. Et avec les enfants, c'est pareil. Les enfants ont besoin de nous toujours au moment où nous n'avons pas envie de nous occuper d'eux. Et pourtant, celui qui veut donner des fruits, celui qui veut ne pas se dessécher sur place, il n'y a qu'une chose à faire, c'est à donner du fruit quand l'autre le demande et non pas quand moi, ça m'arrange. Sinon, on se dessèche. Le temps pour donner du fruit n'est pas fixé par soi, il est fixé par la demande et par le besoin. Alors donc, oui, nous avançons un peu dans cette histoire. Mais alors, continuons. Tout à l'heure, je vous ai signalé que dans ce texte, il y a une incrustation entre le moment où Jésus maudit le figuier et le moment où il est desséché. Se trouve un épisode curieux qui est les vendeurs chassés du temple. Alors là encore, on peut se dire, bon, ben, c'est comme ça, il fallait meubler. Mais non, l'Évangile n'écrit pas les choses au hasard. Est-ce qu'il y a un lien entre ce texte et l'histoire du figuier? Et s'il y a un lien, quel est-il? Je vous rappelle que cette critique des marchands du temple de Jésus ne s'adresse pas aux ventes paroissiales, ni aux ventes de gâteaux des scouts à la sortie du temple, mais que c'était parce que il y avait toute une organisation autour du temple de Jérusalem de gens qui, pour faire leur dévotion à Dieu, devaient acheter à l'entrée du temple des animaux pour faire des sacrifices. Et on leur disait, si vous voulez être en bon rapport avec Dieu, il faut payer à l'entrée. Et en fait, ça veut dire que la relation à Dieu, le pardon, l'annonce de la grâce et tout ça, était conditionnée à un négoce. Alors, une vente paroissiale ne sont pas des marchands du temple, tant que nous ne promettons pas à nos acheteurs ni le salut, ni le paradis. C'est en fait un petit peu ce qui se passait. Et Jésus, et comme les prophètes, ont sans arrêt milité pour dire, attention, ce que je veux, c'est l'amour et non pas le sacrifice. Et l'important, ce n'est pas de se mettre bien avec Dieu par des rites, par des pratiques religieuses, ni en payant, ni en faisant des sacrifices, en faisant des choses matérielles comme ça. Ce que je veux, dit Dieu, c'est que vous portiez des fruits d'amour, des fruits de pardon, des fruits de justice, et tout le reste, tout ce qui est de l'ordre du rite, tout ce qui est de l'ordre de la pratique, je m'en fiche. Et peut-être, justement, y a-t-il là quelque chose en rapport avec notre figuier? Ce figuier, il fallait aussi qu'il produise du fruit. Et quant à ces feuilles qu'il avait en abondance, qu'est-ce que c'était ces feuilles? On peut dire que, oui, c'était peut-être les feuilles de la belle apparence. Oui, moi je suis un bon chrétien, moi je fais bien mes sacrifices, je vais bien à la messe, je vais bien au culte, je fais bien ceci, bien cela, je donne, etc. Et Jésus dit, mais moi vos feuilles, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est du fruit. Qu'est-ce que vous donnez comme fruit dans votre vie? Est-ce que vous donnez des fruits d'amour, de pardon et de justice? Le reste, vous pouvez vous dire chrétien, musulman, bouddhiste ou shintoïste ou rien du tout. La seule chose, c'est que vous donniez des fruits d'amour et de justice. Et vos belles feuilles, si elles ne servent à rien, eh bien, vous pouvez les perdre. Ça ne change rien. On peut même encore aller plus loin et comprendre que c'est probablement cela que Jésus voulait dire. Il y a en effet un petit jeu de mots qui forcément échappe à ceux qui ne sont pas hébraïsants. C'est qu'une feuille, en hébreu, ça se dit « ala ». Ça vient du verbe qui veut dire « monter ». Et c'est le même verbe qui a donné aussi le mot « sacrifice », justement, « le ola », un holocauste, quelque chose que l'on fait monter à Dieu. Alors peut-être y avait-il pour Jésus, là, une critique très évidente du sacrifice, du ritualisme juif. Cet arbre était plein de bons sacrifices offerts à Dieu, mais moi, ce que je veux, ce n'est pas le sacrifice, c'est l'amour. Pour nous, la transposition n'est évidemment pas très difficile à faire. Alors les disciples, très probablement, comprennent un petit peu tout cela, et en même temps sont très étonnés. Sont très étonnés et demandent un peu une explication à Dieu. Au Christ, pardon. Et le Christ leur dit une explication très simple, qui là encore, si on veut lire le texte avec un peu d'attention, loin d'expliquer et complique tout, il dit deux choses. Un, ayez foi en Dieu. Bon, alors on se dit, ah oui, si j'avais la foi en Dieu, je pourrais dessécher les figuiers, ce serait bien pratique pour embêter mon voisin. Non, c'est pas ça, évidemment. Deuxièmement, il dit, voilà, si vous aviez la foi vraiment, vous pourriez dire à cette montagne, jette-toi de là et va dans la mer et elle le ferait. Pas très utile non plus d'envoyer des montagnes dans la mer. Non seulement c'est inutile, en plus, je n'ai jamais vu personne le faire, ni le Christ, ni personne, et donc, une fois de plus, il s'agit évidemment d'une image, enfin, je l'espère, comme le figuier. Mais le lien, peut-être, est-il là, c'est que si effectivement il faut interpréter cette histoire de figuier comme je vous l'ai dit, la question c'est bien celle-là. Comment faire pour que notre figuier intérieur devienne fécond. Eh bien, Jésus dit « Ayez foi en Dieu ». En quoi est-ce que la foi en Dieu peut nous permettre de donner du fruit? Alors là, chacun peut répondre à sa manière, parce que la foi de chacun est différente. Mais néanmoins, je pense bien que la foi en Dieu, c'est quelque chose déjà qui nous ouvre sur l'autre, avec un grand A, qui nous fait sortir de notre égoïsme. La foi en Dieu, c'est s'ouvrir sur l'universel. La foi en Dieu, c'est s'ouvrir vers d'autres petites préoccupations que simplement la sienne. Donc oui, ayez foi en Dieu, ouvrez-vous sur l'autre, ouvrez-vous sur le monde, ouvrez-vous sur l'universel, et vous vous préoccuperez d'autre chose que de vos petites feuilles personnelles. Ou alors, on peut dire aussi que la foi en Dieu, c'est une source, et que la foi en Dieu, c'est une source d'amour, une source de pardon, une source de vie, une source de joie, une source de beaucoup de choses comme cela. Et que dans la foi en Dieu et dans la prière, eh bien, c'est comme un engrais merveilleux que je verserais au pied du figuier et qui pourrait lui permettre de donner encore plus de beaux fruits. Oui, dans la foi en Dieu, je me remplis, je me nourris d'amour, je me nourris de pardon, je me nourris de force, de paix et d'espérance. Et alors, nécessairement, je serai rayonnant d'amour, de paix, de fruits et d'espérance. Et c'est peut-être cela aussi la foi en Dieu. Ou alors, parce que la foi en Dieu, alors là, il faudrait prendre cette histoire de montagne, elle peut permettre de jeter la montagne au fond de la mer. Alors, ça pourrait s'interpréter différemment, mais là, en fonction du texte qui précède, je voudrais l'interpréter dans le sens d'Ésaïe 40. Vous savez, quand il dit « Préparez les chemins du Seigneur, que toute montagne soit abaissée, que toute colline soit arasée, que toute vallée soit comblée, pour que vous puissiez préparer un chemin qui mène à Dieu. » Et peut-être est-ce cela aussi, d'aller balancer dans la mer toutes les montagnes d'indifférence, d'égoïsme, d'idiotie, de stupidité, de paresse et autres choses qui font en sorte que nous sommes des figuiers stériles. Et pour cela, il faut aussi une grande foi en Dieu, il faut aussi, je dirais, une grande énergie, il faut aussi une grande confiance en Dieu et beaucoup de prières, comme le dit Jésus. C'est bien cela, arriver à prendre le figuier stérile qui est en nous et le jeter dans la mer. Et du coup, peut-être même, peut-on comprendre que quand Jésus dessèche le figuier, tout à l'heure, j'ai cru l'expliquer en disant il ne le dessèche pas, il annonce qu'il séchera de lui-même et que c'est comme ça, si on ne produit pas de fruits, on se dessèche. Mais finalement, je ne suis pas très sûr de moi en disant ça, parce qu'en lisant le texte, Jésus maudit le figuier. Et il annonce pas une conséquence, il dit bien que jamais plus personne ne profite jamais de rien de toi. Peut-être est-ce cela, à ce moment-là, qu'il faudrait le comprendre. C'est qu'en nous, tous les figuiers stériles qu'il y a en nous, il y en a plein, tous ces figuiers stériles, toutes ces choses qui encombrent notre vie, qui sont pleines de feuilles, qui font de l'ombre, qui peuvent être des pratiques religieuses ou tout ce que vous voulez, n'importe quoi, tous ces figuiers stériles, il faut avoir le courage de les prendre, de les arracher et de les jeter dans la mer. Tous ces figuiers stériles, il faut les dessécher pour que définitivement ils sèchent, ils cessent de vivre et de produire quoi que ce soit. Ils encombrent la terre. Arrachons-les. Effectivement, il faut arracher ces figuiers stériles, il faut les dessécher, il faut prendre toutes les montagnes d'indifférence et d'imbécilité qu'il y a en nous pour les jeter dans la mer et pour que finalement on puisse faire place au positif et au fructueux. La relation à Dieu, ce n'est pas un marchandage. La relation à Dieu, ce n'est pas des rites. La relation à Dieu, ce n'est rien de tout cela. La relation à Dieu, c'est la disponibilité. C'est de savoir donner, non pas de donner n'importe quoi, non pas de faire disparaître des choses imbéciles, des choses qui seraient utiles, mais au contraire, de faire disparaître de nos vies tous les fatras d'inutilité stérile pour ne laisser que la seule chose essentielle, ayez foi en Dieu. Oui, dit le Christ, tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous le donnera. Non pas n'importe quoi, mais tout ce que vous lui demanderez d'essentiel, tout ce que vous lui demanderez qui est de l'ordre du fruit, ça, il vous le donnera. Et donc, ayez foi en Dieu, et Dieu vous donnera tout cela en son nom. Amen.